On reprend la page 31b3. Donc on va reprendre en une phrase qui nous a été dit dans la Mishnah. Dans la Mishnah, on nous a dit la chose suivante. On nous a dit Aya Batel Minasela, hein, que si une personne, à cause du fait qu'il a rendu une trouvaille, donc Aya Batel Minasela, il a perdu, Sela, c'est une grosse somme. Alors imaginez-vous quelqu'un, par exemple, pour rendre une trouvaille, ça lui a pris une heure. Et une heure de son temps vaut 1 000 euros. Alors quand il va ramener, on avait expliqué que quand je ramène la trouvaille, j'ai le droit de demander à ce qu'on me rembourse les frais que ça m'a coûté. Donc moi je dis ça m'a coûté 1000 euros. Est-ce que j'ai le droit de réclamer 1000 euros? Disons que l'objet il est volé 1000 euros. Il vaut plus que ça. Est-ce que j'ai le droit de réclamer 1000 euros? D'accord. Qu'est-ce qu'on te répond? On te dit, on avait dit dans la Mishnah, le Yomar l'otemi Sela. Même s'il a perdu un Sela, donc une grosse somme, il ne peut pas lui dire rends-moi un Sela. Et là seulement, Notenlo sera roque poel. Il lui donne le même salaire qu'on aurait payé à un employé de base. Donc ce qu'on a rappelé aujourd'hui, le SMIC. Il paye le SMIC, c'est tout. Donc il lui paye à base du SMIC. Même si lui, il a perdu beaucoup plus que ça, il lui paye Kepoel Batel. Kepoel Batel, ça veut dire comme un employé qu'on aurait payé à rien faire. C'est-à-dire, en d'autres termes, ça veut dire qu'il n'a pas de métier particulier. Bon. Ça, c'est ce qu'on a vu dans la Mishnah. Alors, la Gemara va décortiquer un peu plus pendant deux lignes. Elle va expliquer qu'est-ce que ça veut dire, dans les faits, quel salaire je te donnais. Znan. On a enseigné dans une breita. Noten lo sraro, que poel batel. Quand tu me dis que je dois lui donner son salaire, que poel batel. D'accord? Que poel batel, ça veut dire comme un employé batel qui n'est... Enfin, je sais pas comment il traduit ici batel, c'est-à-dire qu'il ne travaille pas. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est quoi
ça? Un travailleur au chômage.
Un travailleur au chômage. Mais un travailleur au chômage, il a pas d'argent. C'est quoi si tu as un travailleur au chômage? Alors, Gemara pose la question, dit, Mike et Poel Batel. C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que ça veut dire quand tu me dis que on le paye comme un employé qui est au chômage? Mais je comprends pas, il est pas au chômage, t'as bien vu, il s'est fatigué pour venir, il a pris un bus, il a pris un taxi, il a pris du temps, etc. Amar Abaye a dit, que Poel Batel, Shelotam Lacha, de Batel Mina. D'accord? Ça veut dire comme ça. C'est-à-dire qu'on va analyser, on va estimer combien une personne est prête. D'accord ? Ça veut dire, on va prendre, regardez, c'est pour ça que le SMIC, c'est une très bonne base. Aujourd'hui, c'est une très bonne base du SMIC. C'est quoi la base du SMIC ? Comment on fait le SMIC, vraiment ?
C'est le minimum qu'on...
Pour casser la tête, c'est très compliqué.
Alors justement, non mais attendez,
on va arriver à une conclusion. Est-ce que les patrons sont prêts à payer pour le minimum?
Non.
Tu as été débattu avec tes partenaires sociaux.
Ils se basent sur quoi?
Sur des produits, normalement, un loyer, des produits.
Ils se basent sur des produits de base. Ça veut dire qu'en vérité, c'est ça ce que la Gemara est en train de dire, c'est très fort. La Gemara a dit que qu'est-ce que ça veut dire que Poel Batel? On va se baser sur le salaire minimum qu'une personne aurait pris. Pour une personne aurait pris pour vivre. Ça par exemple, mais seulement à l'époque c'était encore plus compliqué qu'aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, si c'est quelqu'un qui a 10 enfants ou quelqu'un qui a 2 enfants, c'est pas la même chose. Le SMIC était variable. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si je veux savoir une heure de temps combien ça vaut, il faut analyser, c'est la réponse d'Abaye ça, il faut analyser combien une personne, que même cette personne-là maintenant il a un travail qui est à 1000 euros, mais jusqu'à ce combien il aurait été prêt à descendre pour vivre décemment. Donc, on va dire par exemple, pour une famille de 10 enfants, bah, il faudra 2000 euros par mois. Pour une famille de 1 enfant, bah, il peut suffire de 1000 euros. Et s'il est célibataire, il peut suffire de 500 euros. Je sais pas.
C'est pareil maintenant, c'est-à-dire que tu rajoutes l'allocation familiale. Le SMIC,
oui, c'est l'allocation exact, familiale. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a ça aussi. Donc, ça s'appelle c'est un SMIC variable. C'est ça ce qu'on va lui payer. Donc, je trouve quelque chose dans la rue. Ça va me prendre du temps pour le ramener. Je vais perdre mon temps. Donc, le temps, c'est de l'argent. Qu'est-ce que j'ai le droit d'exiger? Je ne peux pas exiger l'argent que j'ai perdu. D'accord? Ce que je peux exiger, c'est quoi? Je peux exiger l'argent que ça m'aurait coûté au SMIC variable. Donc SMIC variable, c'est quoi? Si on va estimer, c'est le bed-in, hein. Il y a des taux qui sont fixés par le bed-in. Jusqu'à combien une personne aurait été prête à descendre pour gagner sa parnassa?
Il vaut mieux que ce soit trouvé par un célibataire plutôt qu'un père de 15
non,
enfants.
Non, parce que c'est variable.
Mais c'est puisque tu dis ça dépend des enfants qu'il a. Donc le SMIC de 10 enfants sera plus qu'un célibataire.
Oui, mais c'est toujours des petites sommes puisque c'est pas la vraie valeur de ce que le type il gagne s'il est un PDG.
Oui,
mais rajoute les allocations. Voilà, les allocations. Tu vas voir ce que ça fait.
À l'époque, il n'y a pas les allocations. À l'époque, on dit jusqu'à combien il est prêt à descendre. Il lui dit, ben voilà, moi pour vivre avec 10 enfants, il faut le temps. On dit, bon, bah, très bien, alors on calcule une heure à cette base-là, ça vaut combien? Ça a pris une heure? Combien ça vaut? 2 heures? Combien ça vaut 2 heures? C'est comme ça qu'on calcule.
Donc, il n'y a aucun intérêt particulier à ramener la chose, puisqu'il gagne la même chose que ce qu'il aurait gagné en
faisant son boulot. Ah non, pas du tout, parce que peut-être dans son boulot, il gagne beaucoup plus.
Ouais.
C'est un PDG, il gagne beaucoup plus. Il
non, on parle du... Ben, c'est encore pire si vous, pour le PDG, puisqu'il perd carrément.
Il perd, bien sûr, ben oui, quand on fait
bon,
une mise en
perd. Mais l'autre, quel intérêt de ramener l'objet si on ne fait que lui dédommager de ce qu'il a, il a perdu en ne travaillant pas, au même taux que qu'il aurait gagné. Quel intérêt à ramener l'objet, à part la mitzvah elle-même, si on le paye la même chose que ce qui gagne naturellement.
Il n'a pas d'intérêt.
Il n'a pas d'intérêt.
Non.
Tu veux dire par là qu'à la rigueur, il ne fait pas de mitzvah.
Il l'a fait. Mais c'est-à-dire au niveau...
il est fait, comme il a dit.
Rentable, il n'y a aucune rentabilité.
Théorie, il n'y a aucune rentabilité.
D'accord.
Ici, là.
Et la mitzvah est obligatoire.
C'est en hébreu, tu comprends l'hébreu, Yacob, maintenant.
Oui.
Tiens,
alors,
on va prendre l'heure. Ah, vous suivez, d'accord.
Non, on le fait.
Ok.
On le fait
comme bon.
Voilà, prends le poème.
Alors ensuite, on continue, regardez.
C'est l'Ishma.
On avait dit... Ah, ça dépend quel l'Ishma.
C'est l'Ishma de chez l'Ishma.
Rabbi Chaim Vital a dit, il n'y a pas de l'Ishma aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit à part ça dans la Mishnah? Dans la Mishnah, on avait dit encore un autre point. On va reprendre un nouveau point de la Mishnah. On avait dit que s'il y a trois personnes, au moment où je trouve l'objet, il y a devant moi trois personnes qui vont former donc un beddin. Ce n'est pas un vrai tribunal. C'est même un beddin de proximité. Quoi. Donc, trois personnes que je trouve ici, qu'est-ce qu'on dit? On a dit qu'ils peuvent faire la condition avec eux. On a dit voilà, je fais la condition devant un beddin, que je rends l'objet uniquement si je récupère toute ma paye. Donc je répète le cas. C'est que la Michel nous parle, c'est comme ça. Je trouve un objet qui vaut par exemple 10 000 euros. Enfin, moi je suis un PDG, une heure de mon temps ça vaut 1 000 euros. Vous voyez? Une heure de mon temps ça vaut 1 000 euros. Donc moi je dis je veux bien rendre la trouvaille mais je récupère mes 1 000 euros. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'à la base, on peut réclamer seulement, quels frais tu peux réclamer? Seulement les frais du SMIC variable. Ça veut dire selon selon ce qu'il paye pour son loyer, etc. Donc c'est un SMIC variable de l'époque. Très bien. C'est tout ce que tu peux réclamer. Mais la Mishnah avait donné quand même une exception. Mishnah avait dit que si celui qui prend ce PDG là, qui prend la trouvaille, au moment où il la prend, il y a trois personnes à côté de lui, il a dit regardez, je mets la condition devant vous, vous êtes un beddin, je mets la condition que je le rends son objet que s'il me donne 1 000 euros. Il peut.
Sinon il le garde.
Sinon je laisse. Sinon je laisse et il perdra 10 000 euros. Ah oui, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Il dit voilà, il n'y a personne qui va le prendre. Vous voulez le prendre vous? Il dit non, on peut pas, on a le travail, on peut pas. Ok. Voilà, je le prends, mais à condition que je prends 1 000 euros parce que ça va me coûter 1 000 euros.
Trois témoins.
Alors s'il y a trois tenants, c'est pas trois témoins, c'est trois personnes qui ont formé un beddin. Donc c'est des gens cachés qui ont formé un beddin. C'est tout. Il suffit qu'ils soient cachés. On dit il peut récupérer les 1 000 euros. S'il n'y a pas de beddin et qu'il ne veut pas perdre 1 000 euros, qu'est-ce qu'il fait? Je trouve un objet qui vaut 10 000 euros, une heure de temps va me coûter 1 000 euros et j'ai pas envie de perdre 1 000 euros. Mais je veux aller là-bas, il va me payer 50 euros. Dire tiens monsieur, je veux pas
envie de prendre c'est ça.
Eh bien, qu'est-ce qu'on a dit? La Mishnah a donné le principe chez l'Okodem. Même 1 000 euros passe avant. Donc, je laisse l'objet.
Mais ça ne sous-entend pas, pardon, qu'il faille connaître le propriétaire de l'objet avant?
Justement, le chercher, ça va me prendre du temps.
Oui, c'est ça.
Ça peut prendre plus qu'une heure.
Dis-moi, et si l'objet vaut des peccadilles? Quel intérêt? L'objet vaut 30 euros.
Si l'objet, c'est une bonne question, on va poser cette question après. Et si l'objet vaut plus d'argent que les frais que ça va me coûter pour retrouver le propriétaire? C'est ça votre question?
Ou moins.
Les il vaut moins d'argent, pardon. Oui,
oui bah oui. Ça.
Moins d'argent.
Moins, c'est-à-dire il vaut rien, c'est un truc affectif.
Je laisse.
Il n'y a pas de valeur.
Je laisse, parce que mon argent passe toujours avant.
D'accord.
Là, vous comprenez, on a enlevé beaucoup de cas là, avec ça. Quand tu dis que mon argent passe avant, si mon argent il passe toujours avant...
D'accord.
Mais là, pratiquement dans tous les cas, il passera avant l'argent.
Non, si c'est un diamant...
Donc on ne ramènerait jamais les...
C'est vrai, c'est pour ça que c'est... Vous avez raison, le meilleur chien, le Rajba, il dit ce que vous dites.
Bien sûr.
Il dit que dans les faits... Si on accepte le principe que mon argent passe avant, ça veut dire qu'aujourd'hui, rendre une perte, c'est l'ifni mishuratadin, c'est mieux que le din. Parce que toujours, on va dire mon argent passe avant. Le temps, c'est de l'argent.
Mais le côté mitzvah, on en fait quoi là-dedans?
C'est une mitzvah particulière. C'est une mitzvah qui est liée à l'argent. C'est-à-dire que je peux réclamer des frais pour cette mitzvah-là.
Surtout si c'est trois lingots d'or.
On reprend dans la Gemara. La Gemara dit comme ça. Dit, on reprend donc ce que la Mishnah avait dit. Im yesham bedin, matne mifne. On avait dit que s'il y a un beddin, c'est en français. Ah oui, Emi Hachem Beddin. Donc la Mishnah nous avait dit, s'il y a un beddin, maintenant, on fait une condition. quelles conditions je fais? Donc la condition que j'ai dit, je leur ai dit que je rendrai cet objet que si on me donne mes 1000 euros, sinon je ne le rendrai pas. Alors c'est intéressant, comme, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que parce que j'ai fait une condition, alors c'est fini, je peux récupérer 1000 euros. Peut-être le propriétaire, il dit, hein, ah oui, elle est belle. Non, elle est belle, bon, mais de toutes les façons, il gagnait 1000 euros. Il faut qu'il prouve qu'il gagne 1000 euros par heure, attention, hein, il faut pas... Mais quand même, c'est bizarre. Ça veut dire quoi? Parce que j'ai fait une condition, c'est fini. Alors, le propriétaire va me dire, monsieur, je vous ai rien demandé, remettez l'objet là-bas, un autre il l'aurait trouvé, il m'aurait pris 50 euros, pas 1000 euros. C'est gentil, mais... Ah oui.
C'est source de bagarre, ça.
C'est sûr. Donc, c'est pour ça que Gmara va en parler. Gmara, elle raconte, elle dit que Issour, Vérav Safra, il y avait une personne qui s'appelait Issour. c'est un nom araméen. Mais bon, ça me fait rire, moi. Issour et Rav Safra, Avid Iska Baadé Adadé. Ils ont fait une affaire ensemble. D'accord? Ça veut dire quoi, ils ont fait une affaire ensemble? Ça veut dire que ils ont acheté ensemble la marchandise. D'accord? Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Ils ont acheté ensemble la marchandise. C'est pas qu'ils ont mis, ça veut dire comme ça, il y a plusieurs manières d'être associé avec quelqu'un. On peut s'associer sur une somme. Par exemple, je dis, moi je mets 10 000 euros, toi tu mets 10 000 euros, on les met dans un compte, et après avec ce compte-là, on va faire tourner la boîte. Là, dans ce cas-là, c'est de la chose particulière. Dans ce cas-là, si un jour, un des associés décide de reprendre ses 10 000 euros, il a le droit. Parce que l'argent est toujours là, donc il peut le reprendre. On est d'accord? Alors, on aurait dit le capital aujourd'hui, par exemple. Et là, c'est un autre cas. Là, c'est un cas qu'ils ont acheté de la marchandise. Ils ont acheté de la marchandise ensemble.
D'accord.
Donc la marchandise appartient aux deux. Et là, la seule manière de récupérer sa mise, c'est de... Je répète. On a acheté de la marchandise. Imaginez-vous, voilà, Monsieur Bismuth et moi, on s'est associés. On a acheté de la marchandise ensemble. Alors moi, j'ai investi 10 000 euros, et un jour, je vais récupérer ma mise. La seule manière de récupérer ma mise, c'est quoi?
De vendre la marchandise.
Mais d'accord.
Non, mais moi, je peux te racheter.
Là, c'est d'autres à la rote. Pourquoi? Parce que qui dit vendre la marchandise, dit que quand on vend beaucoup de marchandises d'un coup, bah, c'est sûr qu'on va la vendre moins que sa valeur. Alors que si c'était 20 000 euros bloqués dans un compte, bah, tu vas prendre 10 000 euros, il n'y a rien qui va se passer. Donc là, on parle d'un cas très particulier. On parle de Issour et Rav Safra. On fait une affaire ensemble. Ça veut dire qu'ils ont acheté ensemble de la marchandise. Il y a de la marchandise qui leur appartient. Un jour, on nous raconte, Azal, Rav Safra est parti. Donc Azal, Rav Safra est parti. Ou Falaglé. Et il a pris sa part, donc, de la marchandise. Imaginez-vous, par exemple, il y avait
20 sacs de blé.
Combien? Voilà, 20 sacs de blé. Il a pris 10 sacs. Blodaté des Issour, mais sans prévenir Issour. Mais attention, il s'est couvert. Il a fait ça, BAP, Bétré. Il a fait ça devant deux personnes. Alors, le Ritva explique pourquoi il a fait ça, pourquoi il n'a pas attendu, pourquoi il n'a pas demandé à Issour. Le Ritva explique, il dit, parce que Issour n'était pas dans la ville.
D'accord.
Issour n'était pas dans la ville, et comme il n'était pas dans la ville, l'heure était arrivée, ils avaient fait une condition que, par exemple, une fois par an, ils partagent les gains. Et l'heure était arrivée, Issour n'était pas là. Donc il fallait partager les gains. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il a dit, bah écoute, qu'est-ce qu'on fait quand la personne en face de moi n'est pas là? Je mets le tribunal à témoin. Je pense que c'est comme ça qu'on fait aussi dans la France.
Unilatéral.
Unilatéral quand le tribunal n'est pas là. On verra demain, monsieur Dayan, comment ça se passe.
Moi, je peux.
Si j'ai un accord avec quelqu'un, hein, il n'est pas là. Le jour J, il n'est pas là. Qu'est-ce qu'il fera le tribunal?
Il ne peut pas. Par exemple, prenons un cas dans des biens.
Oui.
Le cas s'est posé. Si tu as un associé et que l'associé n'est pas d'accord,
oui.
Tu ne peux même pas vendre.
Oui, mais attention. Attention, c'est pas la même chose là. Parce que là, ils avaient fait un accord. Le Ritva explique comme ça. Ils avaient fait un accord. Que tous les ans, par exemple, ils partagent le gain.
Ah.
Ah oui.
À une date,
quoi, par exemple, voilà, avant les fêtes de Pessah. Arrive la fête de Pessah, Issour n'est pas là. Il est en voyage. Alors sa frère dit, mais moi, il me faut mon argent. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait dans ce cas-là? Il met le Bézine à témoin. Il dit, voilà, je vous prends deux personnes. Vous êtes témoin que j'ai pris tant d'argent. D'accord? Que j'ai pas volé, j'ai rien fait. J'ai pris tant d'argent parce qu'on me les doit. Bon. Donc il a fait... Il a fait ça devant deux personnes, comme ce qu'on a expliqué. Alors, ensuite, on nous raconte que Atal et Kamé, de Rava Baravuna, Rav Safra, donc celui donc, qui a pris cet argent-là devant le Badin, il est venu devant Rava Baravuna, qui était le Rav de l'époque. Amar les Rava Baravuna, il lui a dit, Zil Aitet Lata, amène-moi trois personnes, il n'y en avait que deux, amène-moi trois personnes, des Falag Kamayou, devant lesquels, les trois personnes devant lesquelles tu as fait le partage. D'accord? Trois personnes. Alors le Ritba explique aussi sur ça, il dit que quand on dit trois personnes, c'est pas forcément trois personnes qui sont c'est pas forcément trois personnes qui sont des avocats, d'accord? Ça peut être juste trois personnes, la seule chose qu'on demande, c'est que ce sont trois personnes qui connaissent les valeurs de l'époque, c'est-à-dire qui s'y connaissent un peu en affaires. Quand vous prenez un plombier et vous lui parlez d'affaires, peut-être qu'il ne va pas comprendre. Il ne connaît pas ces affaires-là. Il faut prendre des gens qui s'y connaissent en affaires. Qui s'y connaissent et qu'on ne peut pas les arnaquer. Donc il lui dit, amène-moi les trois personnes. Trois personnes. Les trois personnes devant lesquelles tu as fait. Une amie, ou bien.
Que deux.
Très migot lata. Ou bien. Regardez, là, c'est fort ce qu'il veut dire. Ou bien, amène-moi deux personnes parmi ces trois qui vont témoigner qu'on était trois.
Tlata, tu as dit ?
Tlata.
Ça veut dire trois en...
Trois. Ouais. Donc je répète. Regardez ce qu'il lui a dit. Il lui a dit, ou bien tu m'amènes les trois personnes qui ont évalué, c'est-à-dire les trois personnes qui étaient là et donc que tu as fait devant eux la transaction, ou bien tu m'amènes deux de ces trois personnes.
Oui, qui vont dire il y avait le
qui vont témoigner qu'il y avait un troisième, puisque deux personnes qui témoignent, c'est un bon témoignage. Donc ça veut dire ou bien tu mets les trois personnes qui ont fait la transaction, ou bien deux de ces personnes vont témoigner. Mm-hmm. Donc on va passer en mode témoignage. Ça c'est deuxième option. Veinami, troisième option. Tu amènes très Saadé, deux témoins. Hein, Saadé, comme il dit monsieur.
Saadé.
Hein? Ça veut dire quoi, en arabe, ça veut dire quoi hein?
Que tu tombes.
Que tu tombes, ouais. Ah bon. Alors en araméen, Saadé, c'est les témoins. Donc, ou bien, il peut amener deux témoins, Zephalak, Zapet, Letlata. Amène-moi deux témoins qui ont vu que tu as partagé, donc que tu as fait ce partage, cette transaction, devant trois personnes. Donc trois options il donne, je répète. Ou bien tu amènes les trois personnes qui ont validé la transaction. Ou bien deux de ces trois personnes vont témoigner qu'il y avait un troisième avec eux, donc on passe en mode témoignage. Ou bien deux autres personnes, hormis ces trois, vont témoigner, on a vu qu'il a fait la transaction devant trois personnes. Donc toujours un témoignage. Donc là, Rav Safra est bien embêté, puisqu'il ne les a pas les trois personnes. Combien il y en a ?
Il
n'y en a que deux. Alors Rav Safra, il dit, attends. Marle, Rav Safra, il lui a dit, mais na l'arha, d'où tu sais ce que tu m'as dit là, qu'il faut trois personnes. Parce que la différence entre deux et trois personnes, c'est que deux personnes en général, c'est un témoignage, alors que trois personnes, ça forme un beddin. Donc la question qui est entre la marloquette qui est ici, hein, si on peut dire entre Rav Safra et Rabba Baravuna, il dit, il faut faire devant un tribunal, donc trois personnes. Rav Safra, il dit, non, moi d'après moi, il faut juste des témoins. Comme ça, le jour J, dès que Issour revient, d'accord, il dit, attends, la transaction, elle a été bien faite, j'ai deux témoins qui ont été bien faites. Rav Safra pose la question à Rabba Baravuna, il dit, mais attends, d'où tu sais que c'est un tribunal qu'il faut ici? Peut-être c'est que des témoins, parce que de toutes les façons, ils sourcent, ils m'attaquent en justice. J'ai mes deux témoins. Vous prenez la question? Donc il lui dit, mais Nalakha, d'où tu sais? D'où tu sais qu'il faut un tribunal? De toutes les façons, j'ai deux témoins, donc je suis couvert. Alors, Amarle, il lui a répondu, Rabba Baravuna. Il a dit, regarde d'où j'ai appris ça de notre Mishnah. Dites, Nan, parce que c'est enseigné dans notre Mishnah. Im Yasham Beddin Matem Ifnem. S'il y a un beddin, s'il y a trois personnes, rappelez-vous, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que moi, une heure de mon travail vaut 1000 euros. Et pour rendre la trouvaille, je pense, ça va me prendre une heure. Donc on a dit, si, normalement, je peux exiger que le SMIC, variable. D'accord? Mais s'il y a un beddin devant moi, je peux leur faire la condition que vous êtes témoin, que je réclamerai mes 1000 euros. Pourquoi il faut un beddin? Pourquoi deux personnes ne suffiraient pas? Puisque c'est pour valider une transaction, pourquoi il faut un beddin?
Il faut être sûr déjà que vraiment il gagne 1000 euros le bonhomme.
D'accord. Alors ça après il devra le prouver qu'il gagne 1000 euros. Pas de problème. Mais pourquoi il faut un beddin? Pourquoi il faut trois personnes? Pourquoi il prend pas que deux témoins? Si de toutes les façons la seule chose qu'on a besoin c'est qu'il prouve qu'il a dit ça au moment où il a pris la trouvaille. Alors deux personnes suffisent?
Peut-être de décider.
Pourquoi la Mishnah? Non. Ça c'est un vrai tribunal qu'il fera. Pourquoi il faut un beddin? Pourquoi il faut trois personnes? Ah tu vois bien ici qu'on a demandé trois personnes. Pourquoi? On a dit, s'il n'y a pas de beddin, s'il n'y a pas trois personnes, eh ben c'est mon argent qui passe avant. Et s'il y en a deux, d'après toi, Rav Safra, deux auraient pu suffire, puisque tu dis que pour valider une transaction, il n'y a pas besoin de tribunal. D'accord? Il n'y a pas besoin de trois personnes qui forment un tribunal. Il suffit d'un témoignage, donc deux personnes suffisent. Donc dans ce cas-là, dans la Mishnah, on aurait dû exiger deux personnes qui forment un témoignage, pas trois personnes qui forment un tribunal. Donc c'est de là, Rabba Baravuna dit Rav Safra, Il dit, c'est de là, hein, c'est de sa jurisprudence que j'ai pensé que dans ton cas, puisque tu as fait une transaction tout seul, et que la personne qui est en face de toi n'est pas là, c'est exactement le même concept, a priori. C'est le même concept. D'accord, c'est quoi le problème ici? C'est que c'est comme si j'ai un jugement avec quelqu'un, mais il n'est pas là. Puisque la personne à laquelle je ramenais l'objet, elle n'est pas là. Mm-hmm. Donc c'est comme le cas de Yissour et Rav Safra. Que la personne avec laquelle je dois faire une transaction, enfin une pseudo-transaction, n'est pas là. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu m'as dit? Tu m'as dit que deux ça suffit. Mais si deux ça suffit, pourquoi dans le Mishnah on a exigé trois? C'est le même concept. Alors Rav Safra, il ne se laisse pas faire. Amar, les Rav Safra, il a répondu, il lui a dit, Midami, est-ce que ça ressemble? Est-ce que le cas d'un partage d'association ressemble au cas de notre Mishnah? C'est pas du tout le même cas. Pourquoi c'est pas le même cas? Atam, là-bas, dans la Mishnah qui parlait de la trouvaille, de mapik mamone mehai, ou motive lehai. Pourquoi il y a besoin de trois témoins? Parce que là-bas, c'est un cas particulier. Pourquoi c'est un cas particulier? Parce que suite au témoignage, on va faire sortir de l'argent de quelqu'un pour le donner à une autre personne. C'est-à-dire comme ça. C'est-à-dire que c'est pas un simple témoignage. Suite au témoignage de ces deux personnes, enfin maintenant ils vont être trois, eh ben, je vais exiger 1000 euros de la personne à laquelle je vais rendre une trouvaille. Ça veut dire qu'il y a de l'argent qui va changer de main. On est d'accord?
Là, il change pas de main.
Alors que dans le cas de l'association, est-ce qu'il y a de l'argent qui a changé de main?
Chacun prend son oseille.
Pas du tout. Il n'y a pas d'argent qui a changé de main. Ça m'appartient dès le début. C'est juste une procédure. Vous suivez la réponse de Rav Safra? Ah, ça ferait dit ton exemple est mauvais. Dans le cas de la trouvaille, moi je trouve un objet qui vaut 10 000 euros. Il m'appartient pas, ces 10 000 euros ne m'appartiennent pas. J'ai fait une condition que je veux récupérer 1 000 euros dessus parce que ça m'a coûté 1 000 euros. Oui, mais attends. Là, dans ce cas-là, il y a de l'argent qui va changer de main. Donc peut-être c'est pour ça, comme il y a de l'argent qui va changer de main, c'est peut-être pour ça qu'on a exigé qu'il y a un pseudo-bedding, qu'il y a trois témoins qui sont là.
Qui fait force de loi.
Mais dans le cas de l'association, que de toutes les façons, c'est déjà conclu qu'à telle date, on devait partager. Donc c'est une procédure, c'est pas une transaction. C'est une procédure. Dans ce cas-là, pour une procédure, on n'a pas besoin de trois témoins pour valider. Il suffit juste de deux témoins qui vont certifier que la procédure a été faite en bonne et due forme. Vous comprenez sa réponse? Donc en autre terme, il lui dit, ici c'est pas une transaction, c'est une procédure. Donc tu as comparé une procédure à une transaction, alors que c'est pas du tout les mêmes règles.
Mais pourquoi il a fait ça?
Qui?
Rav.
Attendez, on va voir sa réponse.
L'un c'est pour attester, l'autre c'est pour...
Lui, rappelez par Ravuna, il a amené une preuve de la Mishnah. C'est vrai que ça ressemble un peu dans la Mishnah, parce que dans la Mishnah, c'est le même concept. C'est que je vais prendre de l'argent, je vais décider de prendre de l'argent devant une personne qui n'est pas là. Mais Rav Safra, il a arrêté de lui dire, attends, doucement. Non, la Mishnah, c'est une transaction. Tu vas prendre de l'argent. Tu vas prendre de l'argent. C'est pas de l'argent, c'est de l'argent qui t'appartient pas. Tu vas récupérer de l'argent qui va changer de main. C'est une transaction. Mais dans mon cas à moi.
Je récupère mon oseille.
Je récupère mon argent. C'est une procédure. C'est juste une forme de procédure. Donc, il n'y a pas besoin d'un tribunal pour ça. Il suffit juste de deux témoins qui vont certifier que je l'ai fait en bonne et due forme. D'accord? Dans les mots. Il dit comme ça, il dit, Aval Acha, mais ici, Rav Safra, il dit à Rav Avravuna, Didé Chakli, c'est mon argent que j'ai pris. Giloui Milta Bealmaou, pourquoi j'ai pris les témoins, c'est seulement pour valider la procédure, pour qu'après, si un jour on m'attaque, s'ils sont dit oui, mais qui me dit que t'as pris ce que tu devais prendre, je dis voilà, j'ai les témoins, je suis couvert. Ou Bitré Sagélé, d'après moi, dans ce cas-là, deux témoins, j'étais bien. Parce que vous comprenez le problème que Rav Safra ici, c'est que Rav Safra, il a déjà fait la transaction. Il a déjà fait la procédure, il a déjà pris son argent. Et, oui. quand il rentre au Bata Midrash, il raconte à Rabba Ravuna, il lui dit, attends, mais
t'avais
pas le droit. Rav Safra, il se défend. Mais c'est un peu compliqué quand on se défend comme ça, parce que tu te défends
sur un acte
que tu as déjà accompli.
Donc tu es...
Alors, comme le commentaire explique, ils disent que, c'est intéressant, ils disent que Rav Safra, il a décidé quand il était chez Rabba Baravuna que ce que Rabba Baravuna lui dira, il acceptera. C'est-à-dire la conclusion à laquelle Rabba Baravuna arrivera, il acceptera, même s'il n'est pas d'accord.
Mais il va essayer de l'influencer.
Mais par contre, il veut qu'on lui explique. Ah oui. Il est pas... Bon. Donc il est bloqué. Donc a priori, Rav Safra a posé une bonne question. Attendez, il n'en a pas fini. Rav Safra, il a amené une preuve même à ce qu'il dit. C'est pas seulement une question logique. Il va amener une preuve d'une autre Mishnah. Il est bien calculé son coup. Teda, sache, ça veut dire quand on dit Teda, c'est-à-dire il amène une preuve pour confirmer ses dires. Teda, sache, Titnan, c'est enseigné dans une Mishnah, dans le traité Ktuvot, Almana, une veuve. Donc une veuve qui se nourrit des biens des orphelins. Alors, parce qu'il y a plusieurs cas. quand une personne va écrire, quand une personne va écrire un testament, il peut écrire plusieurs choses dans son testament. Il peut écrire que sa veuve prend une partie des biens et les orphelins prennent une partie des biens. Mais il y a des cas aussi dans lesquels le père va rien laisser à sa femme. Pourquoi? Parce que par exemple, il pense qu'elle ne sait pas gérer de l'argent. Par contre, il va donner tout l'argent aux orphelins, mais il va leur imposer de nourrir leur mère. Logique. D'accord? Par exemple, il sait que la mère ne comprend rien en affaire, elle va recevoir tout d'un coup une grosse somme, elle ne va pas savoir la gérer. Donc c'est ce qu'on appelle dans la Gemara, ce que Rashi dit, Almana anizonet minirsei yetomim. C'est donc une almana, une veuve, qui est nourrie des biens des orphelins. D'accord? Et donc, bon, ça veut dire que si les orphelins refusent de lui donner à manger, ben, elle peut les attaquer. On dit, ben non, c'est écrit dans le testament, d'accord, que vous devez me donner. Même, plus que ça, même si c'est pas écrit dans le testament, la Ketouva fait office du testament pour ça.
Bien sûr.
Pourquoi? Parce que dans la Ketouva, c'est écrit que le mari s'engage à lui donner le mari s'engage à nourrir sa femme jusqu'à sa mort. Tant
mais
qu'il
normalement,
pourra.
Il est yotzé. À la mort de qui? Lui ou elle?
Non, jusqu'à la mort de la femme. Ah oui, sûr.
Même de par sa mort à lui?
Bien sûr.
D'accord.
Donc, normalement, elle aurait dû hériter, mais s'il ne veut pas la faire hériter, s'il a déshérité, pour X ou Y raison, ben, elle doit quand même continuer à profiter de l'argent des orphelins. Bon. Alors, on dit comme ça. Alors, c'est intéressant, parce qu'il y a eu des cas, dans la camarade que tu vois, on nous raconte des fois des cas, hein, que des fois, les enfants, ils ont dit à la mère, ils ont dit, écoute, maman, on va te donner tech tout bas. Et tu nous laisses tranquille. Donc, par exemple, si le père, il est mort jeune. C'est arrivé, c'est quelqu'un qui est arrivé. Et que là que tout va, par exemple, c'est, allez, 20 000 euros. Il dit, attends, si on va nourrir maman jusqu'à sa mort, ça va nous coûter beaucoup plus que 20 000 euros.
Ouais.
Alors, le donne 20 000 euros, qu'elle se remarie, c'est tout. Bah, malheureusement, c'est des cas qui sont arrivés. Mmh. Des fois, les enfants, ils sont durs. Ça marche pas, elle peut pas. Elle peut plus. Parce que là que tout va, c'est que le mari qui peut la donner de son vivant. Mais si le mari n'a pas donné de tout va, d'accord, le guette, et eh ben, la femme, les enfants doivent continuer à la nourrir jusqu'à la fin de leur jour. Attention.
Même si elle se remarie.
Nourrir. C'est une question, ça. Elle doit recevoir une pension, oui. Attention, mais nourrir avec l'argent de l'héritage.
S'il n'y en a plus, il n'y en a plus.
S'il n'y en a plus, il n'y en a plus.
Ah, ah oui. Pas à la parnassa des enfants.
Non, pas à la parnassa des enfants. Nourrir avec l'argent de l'héritage. Alors, pourquoi on en parle? C'est après, il a amené une preuve. Regardez ce qu'il a dit. La Mishnah nous dit dans le traité que tout vote, Almana, une veuve. Donc, une veuve, on a dit, qui est nourrie, d'accord, qui est nourrie par les enfants. Mocheret, Shelo Bifne Beddin. Qu'est-ce qui se passe avec cette veuve-là? Un jour, elle a besoin d'argent. Elle a besoin d'argent parce qu'elle vient de manger. Et les orphelins ne sont pas là. Alors, elle veut, donc elle va à la banque, il n'y a pas d'argent. Par contre, il y a des biens. Les biens, on peut les vendre. Vous voyez? Donc la veuve a dit, bah, dans ce cas-là, on va vendre les biens. Il faut que je mange, moi. D'après vous, elle peut les vendre ou elle ne peut pas les vendre?
Avec un bedding, tu viens de le
hein
dire.
Non, j'ai pas dit ça.
Il n'a pas dit encore.
Hein? Elle peut les vendre ou elle ne peut pas les vendre?
Si on suit ton raisonnement du départ, elle va prendre effectivement deux ou trois personnes pour...
Donc elle est obligée, c'est une transaction, ils lui doivent quelque chose. Oui. C'est pas une transaction, exactement, c'est une procédure. Voilà. Donc il faut bien différencier. Le transaction, c'est un mauvais mot. C'est pas une transaction, c'est une procédure. C'est pas elle pense,
ça lui appartient.
Une partie des biens des enfants lui appartient déjà. Ouais. Sauf que la procédure n'a pas encore été faite. C'est ce qu'on appelle dans la Gemara, que la Gemara a dit avant, Gilui Milta. Gilui Milta, ça veut dire qu'on va seulement dévoiler quelque chose qui existe déjà. C'est une manière de dire que c'est une procédure qui va valider quelque chose qu'on savait déjà. Donc, la veuve, c'est sûr qu'elle a le droit de vendre. Mais elle a le droit de vendre les biens de ses enfants s'ils ne sont pas là. Ils sont partis en voyage. Arrive le mois d'août, elle n'a pas de quoi manger. Mais elle peut vendre ce qu'elle a besoin pour manger. Ça veut dire qu'elle prend une partie du terrain, elle la vend, il n'y a pas de problème. Elle fait ce qu'elle veut. D'accord ? Et les orphelins, ils peuvent rien dire. Ils vont dire, ah, mais nous, on ne voulait pas, on t'aurait donné de l'argent, etc. Il n'y a pas. Il fallait être là, il fallait vous donner de l'argent. T'es pas là, je vends. La question se pose. Est-ce qu'elle doit le faire devant trois personnes qui vont former un Beit Din ou devant deux personnes? Et qu'est-ce qu'a dit la Mishnah, donc tout vote? Mocheret, elle peut vendre chez l'Obisne Beit Din.
Voilà.
Même si c'est pas devant un Beit Din. Donc, ça veut dire que si c'est pas une transaction, c'est une procédure. Combien de personnes il faut pour valider la procédure? Deux personnes.
Donc Rav Safra,
c'est pas seulement un argument logique qu'il a, c'est une preuve qu'il a a priori, c'est une preuve qu'il a que... Pour valider une procédure, il faut deux personnes, pas trois. Donc Rav Safra se défend. Il dit, j'ai bien fait. Puisque j'étais associé avec cette personne-là, c'est pas une transaction. Il n'y a pas de l'argent qui a changé de main. C'était seulement pour valider le fait qu'il me devait pour reprendre l'argent que de toutes les façons, il me devait déjà. Que l'affaire me devait. Donc deux témoins suffisent. Donc j'ai bien fait. Donc, c'est quoi ton histoire de trois témoins? Alors, Rabba Baravuna n'a pas répondu.
Ah.
C'est Abayé qui va répondre. Ah oui.
Chaud,
ça c'est le Beit HaMidrash. Dans le Beit HaMidrash, des fois le Rav il va pas répondre et c'est un élève qui va. Abayé était élève à ce moment-là. Rav Safra et Abayé étaient de la même génération. Rav Baravuna était leur maître. Donc Amar et Abayé a repoussé, il a dit Velav mit marala. Il a dit attends, doucement. Mais Velav mit marala, est-ce que tu ne sais pas qu'on a dit sur cette Mishnah? Amar Rav Yosef Bananumi Amar Rav Nachman, qu'on rapporte au nom de Rav Yosef Bananumi au nom de Rav Nachman, que effectivement Almana et Natsricha, que effectivement une veuve n'a pas besoin de vendre devant un Bet Din Shel Mumrim. Qu'une veuve n'a pas besoin de vendre devant un Bet Din Shel Mumrim, ça veut dire un Bet Din de gens qui sont Mumrim, qui sont professionnels. D'accord, ça veut dire un vrai Bet Din de gens du métier. Aval, mais Tricha Limkor, Tricha Bet Din Shel Idiotot. Mais au moins, elle a besoin d'un Bet Din de gens simples, ça veut dire comme ça. Ça veut dire que, qu'est-ce qu'a dit la Mishnah dans Ktuvot? La Mishnah dans Ktuvot a dit que la veuve, pour manger, elle a le droit de vendre, pas devant un Bet Din. Sauf que le terme Bet Din, c'est un terme qui est pas très précis. Pourquoi? Parce que Bet Din, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Bet Din, ça peut vouloir dire un vrai tribunal avec des gens du métier. Donc, trois personnes qui connaissent toutes les lois. Bet Din, ça peut vouloir dire aussi trois personnes de la rue qui vont former un Bet Din. On est d'accord? On va dire deux choses. Toi, t'as compris, comme tu voulais, t'as compris que Bet Din ici, ça veut dire que même un Bet Din de la rue, il n'y a pas besoin. Deux personnes suffisent. Non. Nous, on a reçu au nom de Rav Yosef Bananumi, au nom de Rav Nachman, qui a dit que quand la Mishnah a dit qu'il n'y a pas besoin d'un Bet Din, c'est pas d'un Bet Din local, quoi. C'est pas d'un Bet Din de la rue qu'on parle, parce qu'il faut trois personnes. Ça, c'est sûr qu'il faut un Bet Din de trois personnes. La seule chose que la Mishnah a dit, c'est qu'on n'a pas besoin d'un vrai Bet Din. On n'a pas besoin d'un Bet Din de trois personnes qui sont professionnelles, qui ont une formation pour ça. Mais un Bet Din de la rue, trois personnes, on a besoin.
Donc la loi.
Donc ta preuve n'est pas une bonne preuve.
Donc la loi nous permet de penser qu'elle fait une différence pour plus tard dans d'autres
cas. Bien sûr. Entre un Bet Din. Oui, c'est logique. Ah oui, c'est logique, c'est normal. Donc il lui dit en d'autres termes, Rav Safra, ta preuve n'est pas bonne. Donc il n'a pas répondu à 100%. Parce que Rav Safra a posé deux questions. D'abord, il a posé une question logique. D'accord. Et Rav Safra a posé une question logique. Il a dit que, d'après moi, il a dit, donc, comment on appelle ça? Rav Baravuna lui avait dit, il te faut trois personnes. Rav Baravuna, d'où il a prouvé ça? Il a prouvé ça de notre Mishnah. Dans notre Mishnah, on a exigé trois personnes pour la trouvaille, pour valider le fait que je récupérais 1000 euros. Rav Safra a posé la question sur ça, il a dit, moi je suis pas d'accord. Pourquoi je suis pas d'accord? Parce que, d'après moi, dans notre Mishnah, on parle d'une transaction, alors que dans mon cas, moi, de l'association, c'était une procédure. Donc c'est pas la même chose. Rav Safra, par ça, a amené une preuve. Il a dit, voilà, j'ai une Mishnah dans Ktuvot, qui me confirme que la veuve, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que la veuve, elle a le droit de vendre des biens des orphelins, même si elle n'est pas devant un Bet Din. Donc lui, il a compris, Bet Din, ça veut dire même s'il n'y a pas trois personnes, elle cite deux personnes. Non? Mais c'est pas ça que ça veut dire Bet Din. Quand on a dit pas devant un Bet Din, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'un vrai Bet Din. Mais un Bet Din local, un Bet Din de trois personnes, un Bet Din de la rue, comme on aurait appelé ça, il faut un Bet Din comme ça. Donc j'ai pas de preuve. J'ai pas de preuve de la Mishnah de Ktuvot, et peut-être même que j'ai une preuve contraire à Rav Safra. On est d'accord? Puisque dans ce que Rav Safra a dit, qu'est-ce qu'a dit cette Mishnah-là dans le cas de la veuve? Si tu me dis qu'il faut trois personnes pour valider une procédure, c'est une procédure, là on est bien d'accord. La veuve, de toute façon, cet argent on lui doit. Donc c'est une procédure, c'est pas une transaction. Puisque tu m'as dit que on a accepté au Beit HaMidrash qu'il faut trois personnes pour valider une procédure. Donc a priori, dans le cas de Rav Safra aussi, le cas de l'association, il faut aussi trois personnes pour valider la procédure. Donc il faut dire, d'accord, la question qu'on se pose maintenant, c'est maintenant que Rav Baravuna ne s'est pas prononcé. Et que c'est un collègue de Rav Safra.
Un élève de Rav Safra.
C'est Abayé, qui est un collègue, c'est-à-dire c'est un élève comme Rav Safra qui s'est prononcé. Mais Rav Baravuna n'a rien dit. Pourquoi il n'a rien dit, je ne sais pas. Peut-être qu'il est parti, je sais pas. Il a rien dit en tout cas. Il s'est pas prononcé.
Alors
qu'est-ce qu'il fait Rav Safra?
Oui, c'est pas un Rav qui a parlé.
Un Rav qui l'a parlé. Ah bon, c'est la manière de voir les choses.
Mais Abayé, c'était qui? C'était l'élève de...
Non, Abayé, c'était un élève comme Rav Safra. Un élève.
À l'époque, il s'énervait pas. Par exemple, si le cas vient aujourd'hui là, on peut pas dire à la personne, mais de quoi tu te mêles? Moi, je pose la question au Rav.
Non, pas du tout.
Non, mais
tant que l'argument est logique, on le pose. Il y a pas de problème.
Donc tout le monde pouvait s'occuper d'un... Là, c'était quand même
il va reconnaître...
Alors, Rav Safra...
Il va reconnaître que c'est bien fondé.
Rav Safra n'a pas répondu.
Lui <D'accord> aussi.
Ah, écoutez bien, Rav Safra n'a pas répondu. Et c'est pour ça que la question... Alors, puisque Rav Safra n'a pas répondu, d'accord. Et apparemment, Rav Safra n'a pas refait la transaction devant trois personnes. Parce que c'était déjà fait. Alors, Maïmonide explique la chose suivante. Il explique que le principe aujourd'hui, la halakha, est de la manière suivante. Normalement, pour valider une procédure, il faut le faire devant trois personnes.
Une procédure.
Une procédure. Pas une transaction, c'est sûr. Même une procédure, il faut trois personnes. C'est pour ça que pour toutes les procédures qu'on fait, il faut trois personnes. Mais, bédiavat, a fortiori, si on l'a fait devant deux personnes, c'est cachère. C'est pour ça que Rav Safra ici n'a pas refait sa transaction. Parce que, vous comprenez que la preuve qu'on a de tout vote, c'est une preuve qui n'est pas très claire, parce que la oui, Mishnah là-bas, elle était pas précise. Donc pas précise, qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Alors la réponse, Samuel, il dit comme ça, il dit que l'Echatrila, il faut trois personnes, donc il faut un bed-din pour valider une procédure. Mais si on n'a pas trois, si on a déjà fait la procédure, si on a déjà fait la procédure avec deux personnes, deux témoins, donc c'est plus un bed-din, bediavad, c'est caché.
On peut pas l'invalider.
D'accord? Voilà. Bon, ça c'est une machloket, alors pas tout le monde est d'accord avec ça. Le Ramban, Nachmanide, il est en machloket. Il dit non. Il dit d'après moi, Rav Safra a fait l'erreur parce qu'il savait pas. Lui, il pensait être dans le bon. Mais maintenant, là, la chahé, que même bediavad, si on n'a pas validé dans trois personnes, c'est pas caché. Donc vous avez ici une machloket entre Ramban et Ramban.
Comme d'habitude.
Maïmonide, il dit bediavad, c'est bon. Parce que Maïmonide, il dit, on pense que Rav Safra, hein, il leur a dit, bon, ok, d'accord, je refais pas la transaction, maintenant j'ai déjà fait, c'est trop tard, c'est fini. Donc, de nos jours aussi, les Khatrila, il faut trois, mais Bediava, si t'as deux, c'est bon. Ramban dit non. Il dit que d'après lui, Rav Safra a accepté ce qu'on lui a dit, et il a dit, ben, je me suis trompé. Et donc, dorénavant, même Bediava, s'il n'y a pas de tribunal, la transaction n'est pas, la procédure n'est pas bonne, on la recommence. Dans le Mishneh Torah. Oui, c'est la conclusion de la Halakha, je vous dis, là.
Ce serait plus logique.
Le commentaire du Ramban, il est dans le Kovet Mefarshim. Donc,
tu l'as pas là?
Si, je l'ai. Ici, là.
Ils sont
ramenés.
Et comment on peut constituer un bel...
Mais selon Ramban, selon Maïmonide, selon Nachmanide, Nachmanide dit que c'est pas cachère. Mais selon Maïmonide, Maïmonide dit que d'après lui, puisque la Gemara n'est pas arrivée à une conclusion, donc elle veut nous faire comprendre que Bediavad c'est cachère.
Alors, la conclusion?
La conclusion, il n'y a pas de conclusion.
On l'évite.
En général, on prend le plus marmire, on n'a pas le choix. En général, le Shulchan Aruch, il suit plus le Rambam aujourd'hui. Là, c'est des cas de jurisprudence, ça. Parce que vous comprenez que c'est... On a amené un exemple, mais en vérité, les cas sont sans fin. Ça veut dire que selon Nachmanide, pour valider une procédure, il faut un tribunal, il faut trois personnes.
Mais entre Ravuna et Nachmanide, il y a 10 siècles.
Non.
Qu'est-ce qui s'est passé dans ce temps-là?
Nachmanide et Maïmonide?
Entre Ravuna et...
Au revoir.
C'est bon, vous avez fini?
Au revoir.
Au revoir, merci beaucoup.
Au revoir. Il y a à peu près 10 siècles, enfin, grosso modo. Quoi. Il y a 1000 ans, quoi.
Oui, 1000 ans, bon. Oui.
Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 1000 ans? Lorsqu'il y avait un problème de...
Certainement que le rave local, il décidait... peut-être qu'il y en a qui pensaient comme Nachmanide.
Je veux dire, il n'y a aucun commentateur entre les deux qui a donné une opinion.
Non, on n'a pas de trace. Non. La première trace qu'on a... Non, parce qu'ils écrivaient pas avant. Le premier qui a commencé à consigner par écrit la halakha, un des premiers, après Rav Gaon, c'était Maïmonide. Et Nachmanide, bien sûr, qui était donc à peu près la même génération. Avant, on consignait pas par écrit.
Le Rif.
On s'est mis à consigner.
Non,
le Rif,
c'est après.
Le Rif, c'est après Maïmonide.
C'est Yehoshua Pinto, c'est 1800.
Non, c'est pas Yehoshua Pinto, non.
Si.
Non, le Rif, c'est Rabbeinu El-Fassi.
Ouais.
Le Rif, c'est à peu près 200 ans après. C'est à peu près 200 ans après Maïmonide.
Donc ils ont écrit ça en se souvenant de... Non. Avant, on n'écrivait pas.
Avant, les jurisprudences n'étaient pas écrites.
C'est avant Maïmonide.
Ça a diagone, c'est avant Maïmonide.
Ouais.
Le Rif, c'est après.
Oui, c'est après, oui.
Mais c'est pas Rav Pinto, hein. C'est Rav El-Fassi de Fès.
C'est ça.
C'est marqué, je crois, dans l'introduction.
Tiens, donne-moi le grand marin. Attends,
je demande ma preuve d'abord. Moi, tu me la tiens.
Et comment ils agréent...
J'ai refusé ta preuve.
Comment ils agréent un bed-din composé de trois personnes de la rue.
Ah, bonne question.
Qui sont pas...
Donc, une autre question qu'il pose M. Daniel, ouais. Il dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi trois personnes de la rue, d'accord, vont former un bed-din? Nous, on a toujours cru qu'un bed-din, c'est des gens qui sont compétents, qui ont une formation pour bien ça. Sûr. D'accord? Qui ont eu une smira, qui ont reçu un diplôme.
Et on connaît leur droiture.
D'accord? Alors, c'est une très bonne question. Et Mefarchim m'explique que, en général, pour tout ce qui est les lois de mariage, Et tout ce qui est les lois dans lesquelles on aurait dû mettre une personne à mort, Dieu préserve, il nous faut un bedin de personnes compétentes. C'est obligé. Mais pour tout ce qui est les lois d'argent, d'accord, pour valider une procédure d'argent, même pour faire une transaction, on n'est pas obligé de le faire devant un vrai tribunal. Je peux prendre trois personnes, qu'on va accepter les deux. D'accord ? Trois personnes qu'on va accepter les deux. Et je leur dis, voilà, vous êtes trois, ben vous allez décider ensemble, parce que vous allez décider, on acceptera. Vous êtes trois, pourquoi trois ? Parce que trois dans trois, il y aura obligatoirement... C'est ou trois, cinq, c'est toujours un nombre impair. Pour qu'il y ait toujours une majorité. D'accord ? Donc vous allez décider, et ce que vous allez décider, on va accepter. Le chidouche qu'on a ici, c'est que les trois personnes qui doivent normalement être décidées par les deux parties, si une des parties n'est pas présente au moment où elle devrait être là, eh ben une des parties peut décider les trois personnes. Normalement, il faut que les deux soient d'accord. D'accord. Normalement, les deux parties doivent se mettre d'accord sur trois personnes. Trois personnes qui formeront un tribunal. Mais, si une des deux parties n'est pas là, comme le cas de Yissour, comme le cas de la veuve, j'ai le droit de décider moi-même les trois personnes. Et l'autre, après, va dire, oui, mais moi, je n'étais pas d'accord avec ces trois personnes. Je vais lui dire, il fallait être là.
C'est vrai qu'en vérité, toute cette histoire-là, c'est seulement une histoire de témoignage.
Voilà, c'est pour ça que j'ai dit une procédure.
Tu sais qui a repris ça ? Maintenant, les chambres de commerce, ils font des tribunaux de réconciliation. Ils n'appellent pas ça tribunaux. Et donc, c'est pour désengorger les tribunaux.
Donne-moi la grande marge, tout le monde.
Ils disent, si vous avez des problèmes commerciaux...
Maman Igmara, par exemple, Kidushin.
Venez à la chambre de commerce, on peut régler ce genre de problème.
C'est pour ça que je veux dire.
Kidushin, oui. Oh, tiens, donne-moi ma métier.
Tiens,
le riff, il est là. Nimuka Yosef. Toujours à la fin de la Gemara. Je vais expliquer comment a été fait le riff. Le riff, c'est très intéressant ce qu'il a fait. C'est à la différence de Maïmonide. Maïmonide, lui, il a formé un vrai code de loi. Qui va être la base de Shulchan Aruch. Ça veut dire que son code de loi n'a rien à voir avec la structure de la Gemara. C'est un code de loi qu'il a structuré par thème. Le riff, il a fait autrement. Le riff, il a pris les parties halachiques de la Gemara, donc toutes les histoires, pour ça il a pas ramené, il a pris que les parties halachiques de la Gemara, et il les a ramenées, il les a compilées. Et donc ici ce qu'ils ont fait, ils les ont fait dans le même caractère que la Gemara. Mais il a amené que les halachotes qu'on garde. C'est le riff. D'accord ? Vous avez ici son nom.
Le
Rouch Arif. Ce Rabbeinu Yitzhak Elfassi de Fez. Voilà. Il fasse. Ils ont écrit son nom là ici. Ils n'ont pas écrit son nom là ici.
Donc c'est le résumé de le résumé.
Oui. Mais après, non, mais en fait, bon, aujourd'hui on utilise beaucoup plus Maïmonide parce que Maïmonide c'est classé par thème. Donc c'est beaucoup plus facile.
Donc le riff c'est quelle époque alors ?
C'est à peu près 150 ans après Maïmonide. Il ramène souvent Maïmonide.
Deuxième.
C'est à peu près 150 ans. 150 ans à peu près après Maïmonide. Le Roche c'était aussi après Maïmonide. Benoît Hacher.
Et le Tour ?
Après Maïmonide. Tous sont tous après Maïmonide.
Sauf Saint-Diagon.
Saint-Diagon il était avant. Ouais. Ils n'ont pas écrit le nom ici. Riff. C'est fini, on va chercher, ton piscarange, on va chercher, on va chercher, on va talmoun. On n'a pas écrit.
Je suis étonné, moi aussi.
Il y a peut-être un autre commentaire, je rassure.
Non, mais il y a
un
riff, pour la parenthèse.
Non. RIF, c'est l'acronyme de Rabbi Yitzhak Fassi.
Oui, oui.
Et en arabe, on l'appelait Al-Fassi. Al, ça veut dire quoi en hébreu ? C'est le
ça
fils, je crois.
De quoi ? D'Italie ?
Ça veut dire quoi, Al ?
Bon, ok, j'y vais.
Comment on dit en...
De... Al. Non, c'est pas le fils.
Monsieur Bismillah, en arabe, Al, ça veut dire quoi ? Al-Fassi.
Deux,
c'est ça ?
Deux. Deux.
Bon, alors son nom, c'était Rabbi Yitzhak Fassi.
Deux Fassi.
Donc on l'appelait Rabbi Yitzhak Al-Fassi, puisqu'il venait de Fès.
D'accord, voilà. C'est ça. Alors voilà, c'est ça.
Il faut que j'ouvre là-bas, Italie.
J'ai pas les clés.
T'as pas de clés ?
Ah non, je sais pas, c'est ton espèce de... La Mishnah nous dit la chose suivante. La Mishnah, elle parle d'une personne qui a trouvé une vache. Une personne qui a trouvé une vache.
D'accord.
Vous allez voir que ça va ressembler à la voiture.
Ben oui.
Une personne qui a trouvé une vache. Le problème que j'ai...
Trouvé...
D'accord.
Ah,
quoi ?
Là, ma preuve.
Vas-y, mon moment de preuve. Où c'est ?
Dis-le.
Non, ça c'est les ouvrages dans le En Yaakov, ça.
Ah ben.
C'est pas le riff de la fin de la Gemara.
Alors, il y a deux riffs alors ?
Oui, ça c'est...
Dis-moi, il y a deux riffs alors, je comprends mieux.
Oui, mais tu m'as dit dans la Gemara, c'est le Niakov ça.
Regarde, tu vois, je suis pas dingo.
Riff ici.
Et comment je peux savoir, bon, regarde.
Alors, on dit comme ça.
Le riff du Niakov, c'est d'accord, et le riff de la Gemara,
c'est pas
le
même. Tout, ouais.
Oui, mais moi, faut pas savoir. Dis-moi, il y a deux riffs. Ou pas ?
Bravo.
D'où l'expression, il y a du rififi.
Il y a du rififi.
Du rififi. Alors on continue, on dit comme ça. La Mishnah, elle parle d'une personne qui a trouvé une vache. Le problème qu'on a, c'est que quand tu trouves une vache, qui est en train de se balader. Une vache. D'accord ? Dans quel cas je la considère perdue ? Qui me dit qu'elle est perdue ? Peut-être qu'elle n'est pas perdue ? Peut-être que son propriétaire... Donc, imaginez-vous, moi je veux partir d'une bonne intention. Moi je prends de la vache, je vais se mettre à chercher son propriétaire. Et son propriétaire, après, il va revenir pour chercher sa vache. Plus de vaches. D'accord ? Et peut-être qu'il la retrouvera pas. Qu'on va... Il va me dire, mais monsieur, je vous ai rien demandé. Pourquoi vous touchez à mes affaires ? Donc la question qu'on se pose, c'est à partir de quel moment on considère que la vache est perdue ? Oui ? Vous comprenez la question ? Quand je considère que la vache est perdue ? Alors après, vous allez voir que c'est le même cas pour une voiture. À partir de quand je considère qu'une voiture est perdue ? Alors, imaginez-vous dehors, là, je vois une voiture avec les clés sur le moteur, allumée. D'après vous, elle est perdue ou pas ?
Non. On suppose que le propriétaire est descendu acheter quelque chose.
Bon, on suppose qu'il a un peu tête en l'air, mais, ouais. Il est là. Ouais. Donc celui qui va vouloir, à partir d'une bonne intention, il va dire, bon, je vais la ramener à la police, etc. On dit, monsieur, je t'ai rien demandé. Si je veux prendre un risque, c'est mes affaires. Donc à partir de quand on considère que la vache est perdue ?
Donc c'est un timing.
Quand ?
Oui.
Alors on avait donné, on avait déjà eu d'autres Mishnah dans lesquels on avait parlé d'un objet qui est immobile, enfin d'un objet qui ne bouge pas tout seul, qui n'est pas vivant. Là le problème d'une vache, c'est qu'une vache, peut-être le propriétaire l'a laissée à un endroit, mais elle s'est baladée un peu, et du coup, on a l'impression qu'elle est perdue, mais en vérité, elle n'est pas perdue. Donc à partir de quand on considère que la vache est perdue ? On va parler de plusieurs choses dans la Mishnah. Entre autres, on va parler de ça. Donc la Mishnah dit la chose suivante. Mais ça, Berefet, si une personne a trouvé la vache, Berefet dans l'étable. D'accord ? Même si c'est une étable qui n'est pas vraiment bien gardée. Par exemple, comme expliquent les commentaires, comme explique Rashi, si c'est une étable qui a une barrière, mais la barrière de l'étable n'est pas fermée. Et moi je passe à côté, et je vois une étable avec une vache, et pas de propriétaire en vue. D'après vous, elle est perdue ou pas dans ce cas-là ?
Moi je pense pas.
La vache est dans une étable, il n'y a pas de propriétaire, mais la porte est ouverte, donc la vache peut partir.
Oui. Et tu refermes la porte.
Ah.
Tu laisses la
vache. Alors, est-ce que je considère que la vache, que le propriétaire ne sait pas que sa vache est là ?
Moi je pense pas.
Alors, qu'est-ce qu'on dit ici ? Qu'est-ce qu'on dit la Mishnah ? En chayav ba. Dans ce cas-là, je n'ai pas l'obligation de la rendre. Ça veut dire comme ça ? Oui. C'est-à-dire, si je veux, je peux rester à côté, pour attendre que le propriétaire revienne, parce que c'est un inconscient. Il n'a pas réfléchi. J'ai dit, attends monsieur, quand il revient, je vais lui passer un petit savon. Je dis, monsieur, on laisse pas traîner les affaires comme ça, elle pouvait partir votre vache. Mais, j'ai pas l'obligation. J'ai pas la misère de la Shabbat Aveda, j'ai pas l'obligation de lui rendre. Ça, c'est s'il a trouvé, on l'a dit, dans une étable, dans un enclos, dans une étable. Mais, pourquoi ? Parce que c'est normal qu'une vache est dans l'étable. C'est l'endroit de la vache. Ah, l'étable n'est pas bien protégée. Ok, alors c'est un inconscient. Mais c'est pas parce que le propriétaire est un inconscient que la vache est perdue. Tu peux, si tu veux, le réprimander, mais elle n'est pas perdue. Donc, j'ai pas d'obligation de lui rendre. Donc, par contre, quand le Mefarchim m'explique, si je vais rester jusqu'à ce que le propriétaire revienne, j'attends, et je lui dis, monsieur, vous aurez pu perdre votre vache, d'accord ? Alors, bien sûr, je peux pas réclamer des frais pour ça, mais j'ai fait une mitzvah. J'ai fait la mitzvah d'Hashavat Aveda. C'est intéressant. Ça veut dire que j'ai pas l'obligation. Mais si je l'ai fait, ben quelque part, j'ai rendu une perte au propriétaire parce qu'il aurait pu perdre sa vache. La vache aurait pu partir. Très bien. Mais, birchut arabim, si j'ai trouvé la vache, birchut arabim, dans le domaine public. Je trouve une vache qui se balade dans le domaine public. Je retourne, je cherche le propriétaire, il n'est pas là. Qu'est-ce qu'une vache fait dans le domaine public ? Il n'y a rien à faire. Une vache maximum et son propriétaire qui est en train de la déplacer. Mais là, le propriétaire n'est pas là. Donc, théoriquement, elle est perdue. Très bien. Dans ce cas-là, chayavba. Dans ce cas-là, j'ai l'obligation de la rendre. Maintenant. Ve'imaita, bebet akvarot, si la vache se trouve dans un cimetière. Je vois de loin un cimetière, une vache, et je suis Cohen. Alors je me pose une question, je me dis, d'un côté, la Torah m'a dit, d'un côté, c'est quoi la question qu'on a ici? D'un côté, la Torah m'a dit de ne pas me rendre impur, donc c'est un interdit. D'un autre côté, la Torah me demande de rendre la trouvaille, donc c'est une mitzvah positive. On a un principe qu'une mitzvah positive repousse toujours une mitzvah négative, toujours. C'est pour ça que, par exemple, si j'ai une mitzvah de faire la Mila le huitième jour, et d'un autre côté, j'ai l'interdiction de ne pas faire couler du sang Shabbat, je fais la Mila Shabbat. Pourquoi? Puisque la mitzvah positive repousse la mitzvah négative. Donc la question qui se pose le Kohen ici, il dit, attends, mitzvah positive, je dois rendre la trouvaille. Mitzvah négative, je ne dois pas entrer dans le cimetière. Alors qu'est-ce que je fais? Logiquement, qu'est-ce qu'on aurait dû dire?
Je dois rendre la trouvaille.
Hein?
Je dois rendre la trouvaille.
Je rends la trouvaille.
Normalement, oui.
Normalement. Donc, je dois rentrer en cimetière, je rends la trouvaille. Qu'est-ce que te dit la Mishnah? La Mishnah te dit non. Elle te dit, le Itamela, j'ai pas le droit de rendre impur. Pourquoi? Comment ça se fait? C'est la Gemara qui va expliquer par la suite. La Gemara va expliquer par la suite que le Kohen, le fait que le Kohen n'a pas le droit d'entrer au cimetière, c'est pas qu'une mitzvah négative. Il y a une mitzvah négative et une mitzvah positive. Une mitzvah négative qui n'a pas le droit de se rendre impur, et une mitzvah positive qui dit, il devra rester pur. Donc une mitzvah positive de rendre la trouvaille ne peut pas repousser une mitzvah négative et positive. Bon, ça on verra dans la Gemara.
Bon, si on ne peut pas remplacer une positive, on va dire
que tu ne peux pas remplacer. Non. Là j'ai la mitzvah de rendre une trouvaille, c'est une mitzvah positive. De l'autre côté, j'ai une mitzvah négative qui dit que j'ai pas le droit de me rendre impur. Normalement, la positive repousse la négative. Voilà. Donc normalement, le Kohen aurait dû rentrer dans le cimetière. Pourquoi il rentre pas? Parce qu'il y a une double interdiction de ne pas rentrer au cimetière. Donc là, une mitzvah positive ne peut pas repousser l'ota assez va assez. On va voir dans la Gemara. Bon. Ça, c'est un premier cas. Un deuxième cas que nous dit la Mishnah. Amar lo aviv. Regardez ce cas encore. On parle toujours d'un Kohen. Un Kohen, donc, qui ne veut pas rentrer au cimetière. Parce qu'il ne veut pas se rendre impur. Amar lo aviv. Si son père maintenant, qui est aussi Kohen, il lui dit, itame. Il lui dit, mon fils, rentre au cimetière et rends-toi impur. Ah, c'est un problème, là, parce que là, tout d'abord, j'ai la mitzvah de rendre la trouvaille, et j'ai aussi la mitzvah d'écouter mon père. Hein? Alors, si son père lui a dit, itame, rends-toi impur. Ou bien, shamarlo, ou bien encore un cas encore plus bizarre. Si son père, il lui a dit, altachazir, ne rends pas la trouvaille. Là, pareil, j'attends. Rendre la trouvaille, c'est une mitzvah positive. Mais d'un autre côté, je dois écouter mon père. Donc c'est mitzvah positive contre mitzvah positive. Disons que je suis pas Cohen. Je trouve quelque chose, je veux le rendre, je veux faire la mitzvah. Mon père dit, non, ne le rends pas. Ah, attends. Mitzvah positive d'écouter mon père, mitzvah positive de rendre la trouvaille. Laquelle je vais passer en premier?
C'est bizarre comme
question.
C'est un cas qui peut arriver très souvent, ça, que des fois le père... Ça veut dire que là, on a un cas que deux mitzvahs positives se contredisent. Dans le deuxième cas.
C'est que votre idée à Mishnah, c'est ça?
Quand?
C'est ça, plus que le problème de la vache, non?
Oui, là, puisqu'on a parlé du Cohen, donc on parle d'un autre cas.
Mais le père, on ne sait pas qui c'est le père.
Peu importe.
Peut-être qu'il peut être...
un rachat. Très bien, mais le père il m'a demandé, qu'est-ce que je fais moi? Mon père il m'a demandé, je dois le respecter.
Oui, mais ça dépend du père.
Non, pas du tout, pourquoi ça dépend du père? La mitzvah, c'est de respecter ses parents. Donc moi, mon père, il me dit, si maintenant, tu vas rendre tes trouvailles, tu vas aller à l'encontre de la mitzvah qui te demande de respecter. Moi, je suis pas religieux, mais je te demande de me respecter et de pas le faire. Donc, j'ai une mitzvah positive, l'écouter, obligé. Mais d'un autre côté, rendre la trouvaille, c'est une mitzvah positive. Donc, mitzvah positive, contre mitzvah positive.
C'est ça, bon, là, d'accord.
Ah oui, qu'est-ce que je fais?
Qu'est-ce que je fais? Tu as dû penser à autre chose, alors un petit peu dit, ne respecte pas Shabbat.
Voilà.
Non, ça, on avait déjà étudié.
Alors, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que nous dit la Mishnah? Elle nous dit, lo ishmalo, il n'écoute pas son père. Pourquoi? Puisque dès que mon père va à l'encontre d'une mitzvah de la Torah, je fais comme si qu'il n'a rien dit.
D'accord. Ok, c'est clair.
Donc, c'est plus positif contre positif, c'est positif contre zéro.
D'accord. Je peux me permettre une parenthèse, un autre cas.
Ouais.
Un peu plus...
moderne.
Un Cohen passe devant un cimetière.
Uh-huh.
Il voit un gangster qui va attaquer ou voire tuer ou agresser quelqu'un dans le cimetière. Qu'est-ce qu'il fait?
Il rentre.
Il rentre sans
exister. Bien sûr, sans exister, bien sûr. Parce que sauver une vie, ça passe avant tout.
On va dire voler. Donc c'est pas une vie, il est en train de voler.
Oui, il rentre aussi, parce qu'on dit qui vole tue.
D'accord, c'est intéressant.
Il rentre, c'est sûr, à tous les coups. Dès qu'il y a un risque qu'une personne risque de mourir, la Torah est repoussée tout de suite.
D'accord.
Sauf bien sûr pour les trois mitzvot. Okay. Alors, on continue. Mishnah continue, nous dit... Elle va parler encore d'un autre cas. Tous ces cas-là, on les développera après dans la Gemara. Mishnah va nous parler d'un cas qu'on a vu dans le passé. La mitzvah de Prika et Teina. C'est quoi Prika et Teina? On avait dit la chose suivante. Deux mitzvot qui sont dites dans la Torah, dans la paracha qui t'avoue. Il dit la chose suivante. Première mitzvah, elle te dit, lorsque tu verras l'âne de ton ennemi qui est en train de crouler sous sa charge, d'accord, tu devras l'aider à relever l'animal. Ça, c'est une première chose. Deuxième mitzvah qui me dit, lorsque tu verras... Donc en fait, non, attends, deux secondes. Non, deux secondes. On appelle prika et teina, ça veut dire charger et décharger. Vous avez dans les mots, vous avez retrouvé ici?
On est là.
Ouais, très bien. Alors, prika et teina, ça veut dire charger et décharger. Donc c'est deux cas bien distincts dans la Torah. Je sais que les gens ne font pas la différence, mais c'est deux cas bien distincts dans la Torah. Premier cas, c'est si je vois l'animal de mon ennemi qui est en train de crouler sous sa charge. Ça veut dire qu'il est par terre. Il est accroupi par terre, avec une charge de une tonne sur lui. Donc, si je ne l'aide pas à décharger, si je n'aide pas son propriétaire, qui est mon ennemi, à décharger l'animal, l'animal va mourir. D'accord ? Donc, dans ce cas-là, je dois aider mon ennemi à décharger son animal. Ça, c'est une première mitzvah. Une deuxième mitzvah, lorsque je vois l'animal de mon ami, d'accord, je vois que mon ami n'arrive pas à charger quelque chose sur son âne. Donc là, c'est un autre cas. L'âne, il est debout, la charge est par terre, mais c'est trop lourd, il n'arrive pas à le poser sur l'âne. Qu'est-ce qu'on te dit dans ce cas-là? Tu dois l'aider.
Ton ami.
D'accord, ton ami, oui. Attention, parce que là, il n'y a pas de risque. Là. Dans le premier cas, il y avait un risque, l'animal est en train de mourir. Tu vas le laisser comme ça, il va mourir. Ou il va s'endommager, en tout cas. Dans le deuxième cas, il n'y a pas de risque. Dans le deuxième cas, l'animal, bah, il trouvera une autre personne. Donc c'est ton ami. Alors, donc la mitzvah d'aider à décharger et la mitzvah d'aider à charger. Alors, maintenant, on nous dit comme ça, parag vétal. Si maintenant, j'ai aidé quelqu'un, voilà, disons que c'était mon ennemi. Je l'ai aidé à décharger, et ou bien je l'ai aidé à charger. Mais le problème, c'est que j'ai affaire à quelqu'un d'incapable, et chaque fois, ça arrive, j'ouvre la porte de ma maison, et je le vois toujours, là, avec sa voiture en panne, etc. Attends, monsieur, achetez une autre voiture. Est-ce que j'ai la mitzvah de l'aider sans cesse? Ça y est, change d'âne. Ou bien ne cherche pas trop sur son âne, arrête de... Ça y est, ça suffit. Parak vétan, s'il a chargé et déchargé. Ou parak vétan, chargé et rechargé, d'accord? Afilu arba vachamisha be'amim. Même 4 ou 5 fois, comme les commentaires disent, même plus que ça. Chayav. Il est toujours chayav. Dès que la situation se représente avec la même personne, j'ai toujours l'obligation de l'aider. Shenemar, comme c'est écrit. Azov ta azov imo. Comme c'est écrit. Azov ta azov imo. D'accord? Tu auras l'obligation de l'aider. Comme on avait expliqué dans la Gemara avant, que pourquoi on dit aider, tu l'aideras. Pourquoi une répétition? Quand on dit aider, tu l'aideras, c'est pour te dire que ça s'arrêtera jamais. Tant qu'il te demandera de l'aide, tu devras l'aider. On avait eu un cas qu'on avait raconté il y a quelques mois avec Rabban Gamliel. Une fois, hein, il était dans le champ, vous rappelez du cas?
Ouais.
Et il a vu quelqu'un, hein, vous vous rappelez?
Avec du bois, là.
Oui, avec le bois. Ouais. Racontez-nous l'histoire.
Non, mais vous la racontez avec moi.
Il a vu quelqu'un qui n'arrivait pas à charger du bois sur son dos. Donc cette personne-là dit à Rabban Gamliel, lui dit, s'il vous plaît, aidez-moi à mettre le bois sur mon dos. Rabban Gamliel lui a dit, combien il vaut ton bois? Il a fait, combien il vaut ton bois? Il lui a dit, bon, il vaut un dinar. Il a dit, ok, tiens, je te donne un dinar et laisse le bois. Bon, il voulait pas, Rabban Gamliel, je sais pas, il avait mal au dos, il voulait pas. Il a dit, tiens, je te donne un dinar, laisse ton bois. Qu'est-ce qu'il a fait l'autre? Qu'est-ce qu'il a fait?
Il a
fait attendez. Rabban Gamliel, il va pas le prendre le bois. Donc il a dit, bon bah dans ce cas-là, il a fait comprendre que le bois il abandonné. Comment celui qui est le prochain qui le prend, il peut le prendre. L'autre, il est chacham, il dit, ah, je reprends le bois puisqu'il a été annulé. Vous me l'avez acheté, mais vous l'avez après abandonné. Je le prends, je le reprends. Il dit, maintenant que je l'ai repris, aidez-moi à le remettre. 3 fois il a fait comme ça. Rabban Gamliel a donné 3 dinars. 3 fois.
Et après?
D'accord. À la fin, Rabban Gamliel, la dernière fois qu'il a donné le 3e dinar, il lui a dit, bon, maintenant, je te donne le dinar. J'abandonne. Non. J'abandonne le fagot parce que je veux pas le laisser. Je veux pas qu'une autre personne qui va le prendre va commettre le vol. Mais je l'abandonne pour le monde entier, sauf pour toi.
Je l'abandonne pour le monde entier.
Sauf pour toi.
Pourquoi il a pas fait?
Ah d'accord.
Bah oui.
Pourquoi il a pas fait au deuxième coup?
Bon, au début, il a joué le jeu. Il voulait pas.
C'était pas plus facile de dire je l'ai.
Parce que la Gemara avait expliqué que c'est une marloquette. Oui, il l'a acheté, il est à lui. Ouais. Mais après, Armand Gamel s'est dit, moi je veux pas le porter, je vais le laisser ici. Ça. Moi, je vais le laisser ici. Puisque je vais le laisser, qu'est-ce qui va se passer? Puisque je vais le laisser, pour toi, Yacob, je crois. Puisque je vais le laisser, qu'est-ce qui va se passer? Si je dis qu'il m'appartient, donc une autre personne qui va passer, il va le prendre, il va voler. Donc il a abandonné.
Je suis venu pour vous, pour vous faire un chèque. Hein. Ouais. Je n'ai pas dormi de la nuit, parce que j'étais surpris que j'ai un débit, moi.
Ça, c'est les gens de l'époque, tu vois. Ils dorment pas de la nuit parce qu'ils sont surpris qu'ils ont un débit. Il n'y a plus des gens comme vous aujourd'hui.
Je ne dors pas depuis 10 mois.
Si, il y en a.
Depuis 10 ans.
Ça se trouve, hein, ça se trouve plus des gens comme ça aujourd'hui.
À mon âge, il faut que je sorte toujours mes... Il faut que ce soit net, hein.
Nos générations, ça nous impressionne, des choses comme ça.
C'est vrai. Par contre, il y a une chose, je voulais vous dire.
Oui. La Mishnah, elle nous dit, même si une personne, donc même s'il a chargé et déchargé 5 fois, et qu'à la fin, j'y attends, ça y est, change de voiture. Change d'âne, tu vois pas que tu mets une charge trop lourde sur ton âne, eh ben, j'ai toujours envie de l'aider parce que c'est écrit Azov, ta Azov, Imo. Tu devras l'aider sans cesse, autant de fois que ça arrivera. Eh oui.
On avait tout ça, non?
Non, ça on l'a pas vu. Oui, on l'a vu avec Rabban Gamliel. Là-bas, on avait dit que la Michelle nous dira après.
Tu vois les commentaires là-dessus, les commentaires, ils sont...
C'est la Gemara, les commentaires. C'est à voir la Gemara.
La Gemara dit ça?
Non, là c'est la Mishnah. La Gemara va commenter après. Il y a la Gemara dessus. Après, la Mishnah, elle nous parle, elle nous dit un autre cas, hein, toujours sur la mitzvah de d'aider à charger et à décharger. Ah, l'arveya chavlo, si maintenant... Alors regardez, ça c'est un malin celui-là. Si maintenant le propriétaire de l'animal, il a son animal qui est par terre. Et lui, il va s'asseoir sur le banc à côté. À l'arveya chavlo, il est parti, c'est assez tranquillement, peinard. Véhamar, et il voit une personne passer. Il va lui dire, oh, il va aller à mitzvah, puisque vous avez une mitzvah de m'aider. Il me reste un trali frog, perroc. Alors allez-y, monsieur, commence à décharger. Et lui, il reste peinard ainsi. Est-ce que j'ai l'obligation de l'aider, dans ce cas-là?
D'abord, c'est ton ami, d'abord?
Ah, c'est peut-être mon ennemi. Ah, c'est mon ennemi, justement. Il profite, il se dit, t'as l'obligation de m'aider. Tu vas m'aider maintenant. Est-ce que j'ai l'obligation? On te dit non.
Déjà, pourquoi on a l'obligation de l'aider à charger?
Pourquoi ouais.
Si quelqu'un il me voit, et normalement il doit m'aider à... Voilà. C'est quoi la logique? Parce que moi, je le fais le matin, c'est mon travail, je suis capable de le faire. Donc,
non, mais là, monsieur Daniel, là on parle d'une charge que vous n'arrivez pas à porter seul. C'est ça que la Torah parle. La Torah voit que j'arrive pas à mettre la charge sur l'animal.
On va la mettre au fur et à mesure.
Par exemple, l'exemple moderne, ça aurait été, je le vois en train de pousser sa voiture.
C'est évident. Non, si on peut pas.
Et je vois qu'il n'arrive pas.
Non, si on peut pas, il y a une logique.
D'accord.
Le problème n'est même pas là, c'est que c'est répétitif.
Oui.
C'est ça où ça devient embêtant.
Bien sûr.
Si tous les matins je descends et le gars il pousse sa voiture, à un moment donné, ça.
Ouais, je dis, monsieur, j'en ai de voiture, ça y est, ça suffit.
Ou alors, le mec il va faire un exprès de ne plus sortir à la même heure.
C'est mon ennemi.
Oui, mais c'est pas sain, quoi. C'est pas sain.
Bon, on verra dans la Gemara. La Gemara va parler de ça.
Donc, s'il peut le faire tout seul, on n'est pas.
Non.
On est pas
la mitzvah, c'est quand il ne peut pas le faire tout seul.
Non, il ne peut pas le faire seul.
Ou bien quand l'animal est en train de crouler sous sa charge et donc là il va en train de mourir. Ouais. Enfin, il est en train de prendre un coup. Donc, et il n'arrive pas à le décharger, ou bien s'il n'arrive pas à recharger l'animal. Alors, donc c'est quel cas qu'on lui dit dans la Mishnah, je finis avec ça. Si maintenant, il y a personne qui me dit, bah, puisque vous êtes là, vous allez m'aider à décharger, alors commence à décharger, moi je reste assis sur mon banc. Patour, il est patour. Chez Neymar, comme c'est écrit, le verset, il dit immo. Il dit Azov, ta Azov, immo. Il dit, tu l'aideras à le faire. Aider quelqu'un, ça veut dire le faire avec lui. D'accord, mais le faire tout seul, je dis non, monsieur, attends, arrête. Tu m'aides, sinon je ne fais pas. Imaya zaken ocholé, mais si maintenant le propriétaire de l'animal est vieux ou malade, et que même s'il veut, il peut pas. Là, dans ce cas-là, chayav. Là, dans ce cas-là, j'ai l'obligation, même s'il n'est pas en train de le faire avec moi. J'ai l'obligation de l'aider. D'accord? Là, on parle d'un animal qui croule sous sa charge. Voilà, par exemple, l'exemple que j'aurais donné aujourd'hui, un animal qui croule sous sa charge, enfin un exemple moderne, je vois la voiture de quelqu'un qui chauffe. Et je vois la voiture, elle chauffe, et il n'arrive pas à l'arrêter. Il a besoin d'aide. Quelqu'un qui va chercher de l'eau, quelqu'un, je sais pas, il a besoin d'aide. Alors, si le gars il se sur un banc à côté, il dit, bon allez monsieur, vous avez une mitzvah, faites votre mitzvah. Vous êtes religieux, hein, faites la mitzvah. Monsieur, non, si vous n'êtes pas avec moi, j'ai pas d'obligation de vous aider. Mais s'il est malade, ou si c'est un incompétent, je vois que le gars il loue le capot, mais il est perdu. Là, dans ce cas-là, j'ai envie de l'aider.
Alors, la question...
C'est ça, l'animal qui croule sous sa charge. Ça veut dire qu'il y a un risque, dans le cas de l'animal qui croule sous sa charge, c'est-à-dire qu'il y a un risque pour la vie de l'animal. Donc là, c'est pour ça que je dis qu'il y a un risque pour la vie de la voiture.
Alors justement, ma question, elle est carrément à l'opposé. Et s'il n'y a pas d'animaux,
intermédiaire entre la misva et l'homme. Uh-huh. C'est l'homme qui porte des sacs, par exemple, on prend des sacs, tu vois une vieille personne, par exemple, ou en train de charger, elle n'arrive pas, elle a plein de sacs. Il n'y a plus maintenant ni d'âne ni de voiture. Tu as la misva de l'aider.
De l'aider, oui.
On est bien d'accord.
Ouais.
Donc l'animal,
c'est pas écrit clairement dans la Torah, mais c'est un kalvachomer. C'est déjà un animal. Mais bon, il faut que ce soit un cas dans lequel je vois que la personne est en train de s'endommager à cause de la charge.
D'accord. Mais si elle est jeune, cette personne, non. Et que bon, elle a...
Oui, mais il s'endommage pas. Il est bon, il galère un peu, mais ça
il
va.
Il galère, d'accord.
Non, c'est pas l'obligation. Mais si c'est qu'une personne âgée qui est en train de... que je vois qui est en train de s'abîmer son corps.
D'accord.
Là, j'ai l'obligation. Kalvachomer.
Alors... D'accord, c'est ça.
Encore un autre din, on finit avec ça. Mitzvah minatora lifrok avalu litoron. Alors, c'est une marque très intéressante, c'est ce qu'on verra dans la qu'on va développer dans la Gemara. Il y a un premier avis qui nous dit que la mitzvah minatora, c'est uniquement d'aider à décharger, mais pas à charger. Bien qu'a priori, le verset dit le contraire. Rabbi Shimon est en marloquette, et Omer, il dit, af liton. Il dit, non, il y a une mitzvah aussi de charger. Alors, la Gemara, bien sûr, va poser la question, on va dire, mais c'est quoi cette histoire? C'est écrit clairement dans la Torah. Il y a deux versets dans la Torah, l'un à la suite de l'autre. Un, il parle de charger, l'autre, il parle de décharger. C'est quoi cette histoire, hein? Et la Gemara, bon, il y aura plusieurs hypothèses, mais la Gemara expliquera, hein, que la marloquette ici, c'est est-ce qu'on peut demander une rémunération pour aider quelqu'un à charger? Pour aider l'animal à décharger quand il est en train de crouler sous sa charge, là, je peux pas demander de rémunération. La question qu'ils ont ici, c'est est-ce que j'ai le droit de demander une rémunération pour l'aider à charger? Donc, par exemple, l'exemple moderne, ça aurait été pour l'aider à pousser sa voiture. Est-ce que je peux demander une rémunération? Pour l'aider à éteindre le feu de sa voiture, je peux pas demander une rémunération. Mais la question va être, est-ce que je peux demander une rémunération pour l'aider à charger? C'est-à-dire quelque chose que la voiture ne va pas se détériorer. Ça, on verra dans la Gemara.
C'est-à-dire quand il y a danger et quand il n'y a pas danger.
Voilà. Rabbi Yossi Aglili Omer, Rabbi Yossi Aglili dit, Imaya ala viater al masao, enza kuklo. Si, sur l'âne, il y avait plus que sa charge, ça veut dire que c'est un animal que je sais que normalement il peut porter, je sais pas combien ça porte un âne, 100 kilos? D'accord? Combien ça porte? Plus? Combien ça porte un âne? 300 kilos. Et je vois que le gars il a mis 500 kilos dessus.
Oui, oui, il va la fesser.
D'accord? Ça veut dire que s'il est tombé l'animal, c'est pas de la faute de l'animal. C'est pas la faute du hasard, c'est de la faute du propriétaire. Qu'est-ce qu'il nous apprend ici, un grand fidouche? Il nous dit Rabbi Yossi Aglili, enza kuklo, j'ai pas besoin de l'aider. Pourquoi? Du coup, c'est, il y a une charge, il est en train de crouler. Chez Neymar, parce que c'est écrit, Tachat Masao. Le verset, il dit, lorsque tu verras un animal en train de crouler sous sa charge. Ça veut dire quoi, sous sa charge? Ça veut dire sous sa charge autorisée. Comme dans les voitures, là. La charge autorisée. Mais si c'est pas la charge autorisée, dans ce cas-là, j'ai propriétaire, écoute, monsieur, t'as 500 kilos, tu te débrouilles avec. Je peux l'aider si je veux, mais j'ai pas l'obligation. Masao, Shiachod la Modlo. Ça veut dire quoi, sa charge? C'est une charge qui peut supporter. Donc on a eu plusieurs cas dans la Mishnah. D'accord?
Non, tu l'aides jusqu'à 300
kilos. Non, bah, c'est, alors, on estime. Non.
Du cas pour savoir.
Si. J'ai pas l'obligation de l'aider même pour 1 kilo.
Ah bon?
Parce que si l'animal il s'est écroulé, c'est de la faute du propriétaire. Mm-hmm. Ah oui.
Puisque l'animal peut prendre.
Alors là, ça veut dire comme ça. Attendez, mais si on pousse ce principe-là de Rabbi Yossi Aglili. C'est-à-dire si maintenant quelqu'un il prend une voiture qui est en panne. Et tous les jours il la démarre, nanana, ouais. D'accord? Ça veut dire qu'en vérité la voiture ne peut pas supporter la charge. C'est une voiture qui marche plus. Donc d'après Rabbi Yossi Aglili, qui a dit que si l'animal je l'ai fait porter plus que sa charge, que donc ça veut dire qu'il y a une faute du propriétaire, j'ai pas l'obligation de l'aider, ben ça veut dire que d'après Rabbi Yossi Aglili, je laisse le gars avec sa voiture.
Absolument.
On est d'accord? Logique. A priori.
Logique.
Bon. On verra tous ces détails-là dans la Gemara. En tout cas, ce qu'on a vu dans la Mishnah, on a parlé de plusieurs cas. On a parlé d'abord du cas de l'étable. On a dit que l'animal est considéré perdu seulement s'il est dans le domaine public, mais dans l'étable, il n'est pas considéré perdu. On a expliqué le concept que la mitzvah, que le Kohen ne peut pas entrer au cimetière pour prendre quelque chose qui est perdu. On a expliqué aussi que le Kohen, même si son père il lui dit de ne pas faire la mitzvah, c'est comme si qu'il a rien dit, il doit faire la mitzvah. On a expliqué aussi que la mitzvah de charger et décharger est sans fin, même si c'est 4 fois, 5 fois, 6 fois. On a expliqué aussi que le propriétaire est obligé de m'aider quand je suis en train de faire la mitzvah, sinon je le laisse en plan. On a expliqué aussi qu'il y aura une marloquette dans la Gemara. Est-ce que je peux demander une rémunération pour aider le propriétaire à charger l'animal? Et enfin, on a eu le principe de Rabbi Yossi Aglili, qui a dit que si l'animal a pris plus que sa charge, que là, dans ce cas-là, il y a clairement une faute du propriétaire, dans ce cas-là, j'ai pas d'obligation de l'aider. Donc, diction, on prend le cas de la voiture, hein, monsieur Yaakov. Le gars avec sa voiture tous les jours, ben, il a qu'à acheter une autre voiture. Pourquoi?
Parce que, d'accord?
Pourquoi? Parce que monsieur, on dit, t'as acheté des voitures comme ça, tu vois bien que ta voiture ne marche plus.
Ouais.
Donc, ça veut dire que tu veux faire porter ta voiture plus que sa charge. Voilà. C'est fini, sa charge, c'est la casse maintenant.
Tu voulais faire une affaire, voilà.
D'accord. Ben, monsieur, tu t'es pris une galère, et ben, tu manges tout seul ta galère. Voilà. Tu nous laisses tranquille. Voilà. Si je veux l'aider, je peux l'aider, mais j'ai pas de mythe. Voilà. On s'arrête ici, et on étudiera tous les détails dans la Gemara et dans la Tachem. Super. Voilà. Somme cal, bonne fin de jeûne.
Allez.